Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Radio Foot International en ce début de semaine pour évidemment nous écouter vous parler de football et parler, allez on y revient, de Lionel Messi, absent à l'entraînement pour le deuxième jour consécutif. Un indice peut-être que la Pulga quittera vraiment Barcelone, que tout est fini ou peut-être pas d'ailleurs, alors que d'autres supporters à Manchester par exemple le guettent déjà Messi. La Liga est-elle au désespoir de perdre le dernier de son next trio de stars internationales? Nous vous en parlerons. Va-t-on vers la fin aussi d'une ère, celle des super joueurs, des super individualités dans une équipe, pour voir naître l'ère des super collectifs? Nous en parlerons aussi. Neymar heureux au PSG, et il le dit, est-ce le début d'une romance au pied de la Tour Eiffel? Et puis le coronavirus, une menace au-dessus des joueurs et de leurs employeurs. Cette saison, le management des entraîneurs sera sans doute très compliqué, compliqué par la pandémie et calculé en fonction du Covid-19. Mais ici, pas de Covid, plutôt des collaborateurs qui sont là à plus d'un mètre. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie Gasnier et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous à vos côtés. Eh bien, il y a Philippe Doucet aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe, vous allez bien?
Oui.
Tout va bien?
Oui.
Et puis Naïm Moniol qui nous fait face. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Émission que j'ai préparée avec David Finzel comme d'habitude et puis avec Laurent Salerno qui est à la réalisation aujourd'hui. Radio Foot, c'est parti.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, de s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment
oublier. Le feuilleton Messi est-il en suspens? En tout cas, on l'entend. Ne me quitte pas, chanter Jacques Brel. Et peut-être que Bartomeu chante ça dans sa salle de bain le matin. Pas de nouvelles, vraiment nouvelles pour ce qui est de savoir si Messi a choisi une destination pour son avenir. Mais en tout cas, il y a des faits concrets. Le numéro 10 du Barça ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement de la saison nouvelle, ni hier, ni ce matin, ni au test Covid d'ailleurs, dimanche, auquel se sont soumis tous ses camarades. Eux, ils ont repris l'entraînement sous la houlette de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur. Alors, personne ne s'arrête pour parler de l'absent, du capitaine absent. Pas de Sequeda, par exemple, pas de message. Est-ce que selon vous, Philippe Doucet, est-ce que selon vous, c'est un indice que son départ est prochain, que la rupture est consommée?
Pas forcément. Je pense que c'est un indice qu'on est parti sur un duel juridique. Si Messi ne vient pas, ça veut dire que la stratégie juridique, c'est ma clause était valable, je suis libre, donc je ne vais pas aller à l'entraînement, je suis libre. Donc,
je veux partir.
Par définition, je ne veux partir et je suis libre. Et là, évidemment, on sait bien que le Barça, évidemment, tient une réflexion totalement opposée. Donc, je pense que voilà, ça révèle juste que la stratégie juridique du clan Messi, c'est celle-là.
Est-ce qu'il lui chante ne me quitte pas ou est-ce qu'on négocierait?
Il y a un moment où ils vont parler, c'est évident. C'est évident que ça va
le
pas.
Le papa d'ailleurs, hein, apparemment,
est
en train Barcelone. D'arriver à Barcelone dans un vol privé.
Ça va pas aller au tribunal tel quel. Évidemment qu'il y a un moment ou un autre où ça va parler, où les positions vont être mises face à face.
Mais c'est
après,
pas
comment ça se passera, on verra.
Pour vous, c'est pas une rupture définitive?
Non, je pense pas parce que je pense que on est dans une phase juridique. C'est-à-dire à partir du moment où il estime que la clause n'est pas valable, il vient pas. Mais le jour où, et s'il est obligé, est-ce que Messi fera ce que de nombreux joueurs ont fait, c'est-à-dire la grève, jusqu'à ce qu'il y ait rupture, etc. Je pense que pour son image, ce serait délicat.
C'est étonnant.
Ce serait délicat vis-à-vis du FC Barcelone, ce serait délicat de faire ça.
On est, je pense, dans un duel d'image. Au moins autant qu'un duel juridique, on est dans un duel d'image où Messi, ne se rendant pas à l'entraînement, entretient la pression sur le club. Ça n'a jamais été aussi loin, en fait, finalement. C'est pour ça que moi, je dis attention, ça a quand même été jamais aussi loin entre eux. Et je pense que Messi fait, c'est mettre une pression extraordinaire sur le club en disant « je suis dans mon bon droit, le méchant de l'histoire, entre guillemets, c'est Bartomeu, moi je m'en vais ». Et puis Bartomeu qui dit « bah s'il veut pas venir, qu'il vienne pas, parce que moi aussi je suis dans mon bon droit ». Et donc, on est aussi sur ce duel d'image qui va fédérer le plus de monde derrière soi pour mettre la pression sur l'autre. Et en ce sens, Lionel Messi a quand même une sacrée longueur d'avance, puisque même si après on peut rentrer dans le détail et dire bah il y a eu ça. Jusqu'à preuve du contraire, dans le duel qui l'oppose à Bartomeu, c'est lui le gentil de l'histoire. C'est pas forcément vrai en réalité, mais pour le grand public, dans le duel d'image, c'est de l'image, c'est du marketing en plus d'être du juridique. Messi est dans son bon droit de ne pas aller à l'entraînement et de mettre la pression parce que bah, le monde entier veut voir Messi peut-être pas s'en aller, mais en tout cas s'il s'en va, rejoindre Guardiola à City. Donc il y a aussi un duel d'image qui a l'avantage de Messi.
Le monde entier, mais peut-être pas.
Mais en tout cas, Messi quand même apparaît aussi peut-être comme quelqu'un de calculateur, parce que on n'a pas l'impression que cette lettre, tout d'un coup,
a été décidée
la veille.
Messi a toujours été dans le calcul. Alors, il a eu un pare-feu extraordinaire, c'est son père, mais comme Neymar a son père, comme Mbappé a son père, il a eu le pare-feu incroyable. Le pare-feu, c'est le père qui gère
le pare-feu parfait.
Ouais, le pare-feu parfait, c'est-à-dire, il gère l'argent, il gère la marketing, il gère la pub.
C'est lui qui triche avec les impôts, c'est lui qui achète un appart à Milan.
Et puis comme en plus, lui, il a des prestations qui sont fabuleuses sur le terrain, bah, tout le monde est
non, mais je parlais du papa, là, qui fait ça.
Oui, moi, je parle de Messi. Comme lui, il a des prestations incroyables.
On divise la tâche.
Voilà, le papa, lui, qui s'occupe, du business, du marketing, du machin, c'est un peu lui qui a le mauvais rôle. Donc, mais là, on est en train de se rendre compte que finalement, Messi, ce qu'on savait un peu en creux sur tout un tas d'histoires qu'il y a eu où Messi a pas toujours été très gentleman au sein du club, on est en train de voir son vrai visage. Mais après, il a grandi.
On ne sait pas. Mais moi, on est dans une situation de guerre ouverte. On est dans une situation de guerre ouverte entre le Barça d'un côté, représenté par un président finissant et contesté, mais quand même qui incarne l'autorité.
Contesté à cause
du club.
Des résultats du club, des mauvais résultats.
Voilà, et qui est menacé pour. Il sera certainement pas le président encore à partir du mois de mars où les prochaines élections ont lieu. Et Messi, qui est aussi un leader défaillant sur le terrain puisqu'il n'arrive plus à amener l'équipe au sommet de la Ligue des Champions. Et donc c'est une fin de règne des deux côtés. Et pour moi, je me mouille un petit peu. Je ne vois pas comment Messi pourrait revenir, vu là où la guerre est allée, vu où on en est dans la bataille. Je ne vois pas comment il pourrait revenir un jour au FC Barcelone en tant que joueur. Pour moi, là, c'est allé trop loin.
En tout cas. Voilà. Même si les supporters apparemment font effectivement plus porter le chapeau à la direction.
Évidemment, parce que s'ajoute aussi au détriment de la direction, s'ajoute aussi tous les recrutements massifs financièrement, mais qui n'ont pas porté leurs fruits sur le terrain, les mauvais résultats, les embrouilles de ceci, les embrouilles de cela, les départs de
Messi de s'être lassé de cette
situation. Oui, mais de toute façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans l'histoire, il a le beau rôle. C'est le méchant de l'histoire pour le grand public, c'est Bartomeu. C'est Bartomeu qui a laissé partir Neymar. C'est Bartomeu qui dépense du pognon pour recruter des joueurs qui n'ont pas le niveau. C'est Bartomeu qui a placé un tel et un tel à des postes stratégiques. C'est à cause de lui que Xavi veut parvenir, il l'a dit.
Lui, c'est
le méchant de l'histoire.
C'est le méchant parfait.
Et dans cette histoire-là, dans ce duel d'image entre les deux, c'est pour ça que Messi a l'ascendant sur le club, sur l'institution, c'est que Bartomeu a vraiment, c'est le Gargamel du truc.
On va poser la question à un de nos consultants qui est overseas pour l'instant, il est un peu loin, Carlos Bianchi. Bonjour Carlos, hola.
Bonjour Annie, bonjour à la table.
Bonjour Carlos, vous nous manquez.
Bonjour.
Hein. Il faut revenir manger à notre table.
Oui Carlos, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas disputé.
Hein. Bien, mais...
Vous avez le niveau pour être à la table avec nous. Carlos, vous, Argentin, ancien joueur, ancien aussi entraîneur, en plus d'être Argentin, c'est-à-dire du même pays que Messi, comment vous comprenez ce bras de fer actuel? Est-ce que pour vous, c'est une guerre ouverte? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de pouvoir? Qu'est-ce que vous comprenez?
Moi, ça m'étonnerait que ce soit en question d'argent, parce que Messi, déjà, il a pas mal, non?
À peu près 100 millions par an.
Et oui, alors, d'euros. Vous savez, c'est comme Platini, il a dit, je ne joue plus à la Juventus, j'arrête de jouer au football, parce qu'il avait assez déjà pour les restants de ses jours. Je ne crois pas qu'il soit en question d'argent. Par contre, moi, je dis toujours que des fois, le football ressemble à un mariage. Moi, homme, si ma femme veut partir, je ne peux rien faire et qu'elle s'en aille. Et si elle, si je veux partir, ça ne sert à rien de m'arrêter. Parce que continuer à être ensemble quand ça ne va plus, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y aura toujours quelque chose. Là, je crois qu'il y a un problème entre les dirigeants et Messi. Alors si Messi veut s'en aller, il faut le laisser jouer. Si on l'aime bien à Messi, les gens de Barcelone, je pense qu'ils doivent l'aimer bien à Messi. Alors il faut le laisser partir et qu'il finisse sa carrière où il veut l'arrêter. C'est tout, c'est simple, il ne faut pas faire compliquer les choses, parce que ça, à la fin, après une semaine, après 15 jours, après un mois, c'est déchiré, et ça finit mal, c'est moche, ça ne sert à rien, c'est ma façon de voir les choses. Moi je dis, à un moment donné, il faut savoir très bien que quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et bon, tant pis, Carlos... on a passé 15 ans ensemble.
Oui, et justement, 15 ans, même pratiquement 20 ans dans le club, en tout cas. Il a passé 20 ans dans le club. Est-ce que vous pensez que de ce bras de fer entre la direction du club ou d'un club en général et de ce joueur, c'est aller trop loin pour vous?
Moi, je pense que j'aurais pas dû arriver à cette situation-là. Mais on dirait qu'un seul match, ça suffit pour faire exploser la baraque.
Vous pensez ça ou vous pensez qu'au contraire, il y a eu d'autres choses?
Tous ces chantiers-là, si Barcelone ne perd pas 8-2 contre Bayern de Munich, si ça passe Barcelone, qu'est-ce que ça change quoi? Parce qu'à l'intérieur, c'était déjà quelque chose de moche.
Oui, dans le vestiaire.
C'est pas un résultat d'un match qui va tout casser.
Mmh. Ouais, c'est ce qu'on
c'est
imagine.
Ma façon de voir les choses, c'est pas le 8-2 qui l'a fait que, bon, à partir de là, c'est fini. Non, sûrement que déjà, il y avait déjà... C'est pour ça que moi, je dis la vérité. Le mieux, c'est de le laisser partir où il veut y aller et qu'il finisse sa carrière dans 2 ans, dans 3 ans.
Et donc négocier.
Et c'est fini. Après, il va revenir habiter à Barcelone parce qu'il a vécu toute sa vie à Barcelone, lui.
Carlos, est-ce qu'on l'attend en Argentine?
Non.
À Rosario?
Non, ça, il faut être réaliste, je pense, non, que... Et tu sais, quand je rentrais en Argentine en 1980, il y avait River et Boca, que c'est les deux clubs les plus importants qu'il y a en Argentine, d'accord? Mm-hmm. Ils voulaient que je signe pour eux. Mais moi, je voulais finir ma carrière, où je l'avais commencé à l'âge de 10 ans, à Vélez. Et Vélez, c'est un club de quartier, sans plus. Et je signais à Vélez. Quand tu as envie de quelque chose, tu le fais. Parler, ça sert à rien.
Non. Mais j'imagine que les gens à Rosario se demandent s'il a envie de retourner à Newell's.
Oui, Annie, mais les Marseillais se espéraient que Zidane finisse sa carrière à l'OM.
Drogba.
Il y a eu plein d'exemples de joueurs dont on espérait qu'ils finissent la carrière dans leur ville natale ou face à leur public
Platini
chéri.
Platini n'a pas fini sa carrière à Nancy.
Si, absolument, Carlos. Mm-hmm. Donc je pense que ça, c'est croire ça, c'est faire preuve d'un romantisme totalement dépassé.
Quand t'as vraiment envie, à un moment donné de ta carrière, à la fin surtout, quand tu as envie de quelque chose, si tu ne peux pas te donner le luxe de prendre toi la décision, moi je dis la vérité, quand je rentre en Argentine en 80, après 7 ans, je dis je veux finir la carrière où j'ai commencé.
Te faire plaisir.
Et c'est fini, on ne parle plus.
Carlos, alors beaucoup l'envoient du côté de Manchester City. On va en parler pour ce qui est de la faisabilité, mais est-ce que vous pensez que ça serait logique, comme semble le penser beaucoup de monde, évidemment, de par la présence de Guardiola, voire celle d'Aguero, un de ses camarades?
Moi, je pense que c'est le club qui a plus de possibilités, non? Pas seulement du point de vue économique, sinon parce que tous les deux, ils se connaissent. Mmh. En plus, il y a Aguero aussi, mais... Et en plus, le football en Angleterre, il est beau, il y a les plus grands joueurs de football. Et ça, peut-être qu'à lui, ça lui fait plaisir. En plus, il va jouer la Coupe d'Europe. Guardiola, depuis qu'il est parti à Barcelone, il fait poteau. Et alors, peut-être qu'avec Messi, tous les deux ensemble, ils arrivent à réussir que Manchester City gagne la Coupe.
Philippe Doucet, est-ce que vous le voyez, Messi, jouer en Premier League et dans ce club de Manchester City?
C'est vrai que s'il part, ça paraît être la version la plus...
La destination
la plus logique, parce que Messi a besoin d'un type de football que Guardiola, évidemment, lui garantit par avance. C'est une certitude. Et il a besoin de ça. Messi peut pas jouer n'importe où.
Oui.
Enfin, il peut parce qu'il est.
Surtout maintenant, il a très fort,
mais
plus envie, comme dit Carlos, de se faire plaisir.
Il a pas envie de jouer un football incertain dans un endroit incertain. Ça, il a pas, sûrement pas envie de ça après
donc
avoir passé 20 années à Barcelone.
Madrid, quoi.
Voilà, il ira pas à l'Atlético, il ira pas au PSG, à mon avis. Il fera pas des choix de ce genre-là. Il va pas aller dans des terres inconnues, des choses qu'il connaît pas, qu'il maîtrise pas, où il a aucune certitude sur la qualité du jeu ou autre. Il va aller très naturellement vers quelque chose qui ressemble effectivement au Manchester City de Guardiola, ouais.
Carlos?
En plus, il va parler espagnol avec Guardiola, avec l'entraîneur, que c'est très important.
Même le président est espagnol, le directeur sportif est espagnol, enfin catalan même. Ils sont tous catalans même, alors c'est encore mieux.
C'est pour ça que lui, il ne sera pas dépaysé.
Non.
Et voilà, j'entends un peu dans les débats ces derniers jours, oui, on ne peut pas imaginer Messi vivre à Manchester, dans la grisaille du nord de l'Angleterre, après avoir vécu à Barcelone. Bon, je pense que quand on gagne bien sa vie et qu'on peut se payer un logement confortable,
avec s'acheter le soleil
un
dans
beau
la maison,
jardin, on s'achète pas le soleil, mais on s'achète un confort et une existence simple. Et
à Barcelone, il sort pas de chez lui
pour faire abstraction du climat.
Il va pas à la plage tous les jours.
Donc sous ça, c'est pas des arguments qui sont valables pour moi. Et je pense que c'est le plus logique. C'est moi personnellement, j'aurais préféré voir Messi dans un football qu'il ne connaît pas pour voir sa capacité d'adaptation hors d'Europe ou même en Europe, mais avec des entraîneurs qui sont loin a priori de ses canons footballistiques. Mais pour moi, c'est évident, ça tombe sous le sens. Et si on parle ensuite de l'aspect financier, ça conforte cette piste, quoi.
Naïm.
Oui, ils ont tous les deux raison. C'est vrai que ça paraît logique parce que Guardiola n'a rien gagné depuis qu'il a quitté Barcelone. Messi a tout le temps dit que le meilleur entraîneur avec lequel il avait évolué, c'était Guardiola. Ajoute à ça que mine de rien, les dirigeants émiratis ont quand même envie de progresser un peu en Ligue des Champions parce que ça échappe à personne. Le PSG, lui, a fait la finale et qu'ils aimeraient bien quand même faire au moins aussi bien que le rival qatari. Donc oui, tous les facteurs convergent vers une arrivée de Messi à Manchester City. Après, dans le football moderne, avec Messi, avec ce genre de joueurs et de clans, allez savoir ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que s'il quitte Barcelone et qu'il reste en Europe, City paraît être la destination privilégiée.
Carlos, est-ce que vous qui êtes aussi un ancien joueur, est-ce que justement à cet âge-là, vous dites que vous aviez choisi et envie de retourner à Vélez, le club de vos débuts? Est-ce que, pareil pour Messi à 33 ans, on choisit un peu le confort à cet âge-là? C'est-à-dire effectivement parler espagnol, un entraîneur qu'on connaît déjà, on prend pas trop de risques.
Mais c'est la vérité, il prend pas de risques. Il prend pas de risques pour la simple raison que il parle avec un entraîneur qui le connaît depuis 15 ans, qui sait très bien comment il peut jouer Messi. Et Messi sait très bien de quelle façon il va le faire jouer Guardiola. Alors il n'y a aucun problème pour lui. C'est la fan rêvée, disons. Et en plus, ils ont des résultats, tant mieux. Mais il faut faire attention avec les résultats. Parce qu'après, ils arrivent les Allemands, ils finissent pour gagner. Hein.
Oui, apparemment.
Faites attention.
Carlos, une dernière question avant de vous libérer. Est-ce qu'en Argentine, on en parle beaucoup de cette histoire aussi? Parce qu'ici, évidemment, dans les médias sportifs, je dirais, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on connaît la relation compliquée qu'a Messi et l'Argentine? L'information est sortie du côté de Buenos Aires. Est-ce qu'on en parle encore beaucoup? Est-ce qu'on se passionne pour ce sujet ou pas tant que ça?
Sans plus, peut-être qu'il y a un programme qui prend. Aujourd'hui, on va parler de Messi, peut-être qu'il parle pendant une demi-heure, chacun y donne son opinion, comme en ce moment, nous. Mais non, c'est pas en question. L'Argentine, il y a des autres problèmes que parler de Messi. Alors, Messi, c'est bien, mais pour parler quelques minutes. Après, c'est fini.
Vous pensez qu'il ira jusqu'à la Coupe du Monde la prochaine, Messi, de 2022?
Il a 33 ans, il est 35, et Ronaldo, il compte y aller, il a deux ans plus que Messi, non?
Deux de plus.
Deux.
Alors, pourquoi pas?
Oui.
Bien sûr.
D'accord.
Mais bien sûr. Surtout s'il va jouer en Angleterre.
Restant compétitif.
Il va rester compétitif, c'est ça le plus important.
Merci beaucoup, Carlos, d'avoir été en direct dans Radio Foot International pour nous donner votre éclairage sur le feuilleton Messi. À très bientôt, Carlos.
Merci beaucoup à tous et j'embrasse très fort à la table.
Salut, Carlos. La table te remercie.
Merci.
Ciao, Carlos. Alors, celui qui a dû perdre aussi le sommeil avec cette histoire au Barça, c'est le fameux président de la Ligue de football
Tebas.
Espagnol, Javier Tebas. Il a d'ailleurs analysé le contrat qui lie le joueur à son club et il a dit « la clause des 700 millions s'applique ici ». En tout cas, le prochain Classico a déjà été annoncé. Hein, c'est le match le plus suivi de football mondial, en dehors d'une Coupe du Monde. Il est programmé le 25 octobre prochain au Camp Nou. Alors c'est un match qui est bien un Barça-Real qui aura peut-être perdu de sa saveur Naïm, parce qu'on a déjà plus Cristiano, on le disait depuis 2 ans.
Il y aura Neymar est parti en 2017.
Neymar était parti. Maintenant il y aurait plus Messi, peut-être plus Suarez non plus. Ouais. Cette Liga, est-ce qu'elle est en train de perdre pied un peu par rapport aux autres championnats européens? On disait que c'était le meilleur, celui qui se vendait très bien aussi.
Là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Alors que Messi, Ronaldo soient des pôles d'attraction qui focalisent encore plus l'attention, oui. Après, j'ai tendance à penser que le championnat d'Espagne reste un championnat de très grande qualité, avec ou sans Messi. Que le duel Real-Barça, qui a vécu avant Ronaldo-Messi, va survivre à Ronaldo-Messi. Et que même si sur les 2-3 saisons qui arrivent, il y a peut-être moins d'intérêt parce que ces deux-là, ils sont ailleurs, que peut-être il y ait moins de joueurs capables de faire la différence comme le faisait le championnat d'Espagne. Le duel Real-Barça va rester très coté, un championnat très coté et qui restera parmi les meilleurs du monde. Mais effectivement, c'est des pôles d'attraction en moins. Et on commence déjà, je crois savoir, du côté de Tebas, à faire un peu la comptabilité, voir. Oui. Parce que les droits courent jusque 2024. Donc jusque 2024, on va dire qu'il n'y a pas de problème.
2022 sur le plan national et 2024 sur le plan international.
Voilà, il y a 80 contrats de signés. Donc voilà. Donc, à partir de 2024, est-ce qu'ils vont pas commencer à se dire, on a perdu les meilleurs joueurs du championnat? Est-ce que ça va pas être revu à la baisse? Est-ce que les contrats avec les pays étrangers vont pas être revus à la baisse? Peut-être. Donc, il va falloir, pour le président et pour la Ligue, trouver d'autres vecteurs de rendement, de rentabilité. Mais c'est vrai que oui, à l'instant T, on avait perdu Ronaldo. Si on perd Messi, le prochain Real Barça va être fade.
Philippe Doucet, est-ce que vous pensez la même chose? Parce que finalement, on pourrait aussi se dire, bien, Cristiano qui est parti dans le championnat italien, est-ce que ça a boosté la valeur du championnat italien?
Oui, clairement. Oui, oui clairement. Oui. C'est pour ça que si Messi, même à 33 ans, va quelque part, ça boostera
encore
même,
plus.
Même la première ligue, ça la boostera. Oui, ça la super boostera. Mais pour autant dire, affirmer pour autant que la Liga aurait perdu tout intérêt. Pas du tout.
Non.
Le duel Barça, je rejoins complètement Naïm, le duel Barça-Real, il est éternel, il a été éternel et il sera encore éternel.
Il
attirera tous les intérêts, même quand l'Espagne était beaucoup plus bas dans le classement européen, ils n'étaient pas les meilleurs, les années où les Anglais, les Allemands gagnaient tout et les Espagnols ne gagnaient pas à l'époque, il y a 20-30 ans. Jusqu'à ce que Cruyff change un petit peu la nature du foot espagnol, et le championnat espagnol, il était toujours exceptionnel. Oui, alors pour la cote internationale, c'est sûr qu'il y a eu un âge d'or incroyable où il y a eu à la fois Barça, Real, Messi, Ronaldo,
voilà, un alignement de planètes parfait
et gagner toutes les ligues des champions ou presque. Une fois l'Inter, une fois le Bayern, une fois Chelsea, mais enfin globalement gagner toutes les ligues des champions. Et toutes les Europa League en plus. Donc c'était un alignement incroyable des planètes. Pour autant, le jour où ils gagneront plus de Coupe d'Europe, vous voyez bien que Barça-Real, ça restera éternel. Et puis d'un point de vue commercial, je suis pas très inquiet pour eux, parce que 2024, Ronaldo aura quel âge? Messi aura quel âge? Je crois que Tebas, il avait quand même intégré qu'en 2024, peut-être
que
les arguments de vente, ce serait pas Messi-Ronaldo, peut-être.
Ils auront peut-être rapatrié Mbappé d'ici
à 38, là, à 38 et 37 ans, peut-être que c'était plus l'attraction numéro 1.
Il y a deux choses, il y a Messi-Ronaldo, les individualités sont parties, bon ça, il faut en faire le deuil. La Liga, sauf si Messi, par un rebondissement, reste au Barça cet été, mais j'y crois pas, la Liga doit en faire le deuil, mais il y a ensuite pour les clubs, ce sont des clubs qui ont toujours eu à surmonter dans leur histoire. On pense à tort que le Real et le Barça n'ont eu que des périodes fastes. C'est faux. Ce sont des clubs qui, au fur et à mesure des années 70, 80, 90, 2000, ont eu à surmonter des périodes de creux où ils ont dû reconstruire, repenser leur football, leur modèle. Et ils ont toujours réussi à le faire. Moi, je me fais pas de soucis. Ils sont pas dans une crise structurelle. C'est une crise passagère qu'il va falloir soigner. Mm-hmm. Mais c'est faisable, en tout cas, surtout pour le Barça, parce que le Real arrive mieux à surmonter, je pense, la perte de Ronaldo. Et puis, le niveau moyen du championnat d'Espagne. Philippe parlait des victoires en Ligue Europa qu'on a tendance à oublier, mais La Ligue Europa,
c'est une jauge du
niveau moyen d'un championnat, peut-être plus que la Ligue des Champions qui repose davantage sur des clubs très riches qui peuvent être un peu déconnectés du reste. La Ligue Europa, elle montre la valeur, la densité de la Liga. Quand vous jouer FC Séville, FC Valence, Villarreal aujourd'hui, vous vous dites c'est du très haut niveau. Plus que quand vous voyez jouer l'OL ou Lille ou Bordeaux en Ligue 1.
Par contre, ce qu'il va falloir regarder, c'est essayer de voir comment va réagir financièrement le Barça si Messi s'en va. Parce qu'on se rappelle que quand Neymar est parti, il y a eu des millions et des millions, des centaines de millions d'engagés sur des joueurs qui ne les valaient pas toujours. Et on a vu que c'est devenu un peu n'importe quoi. Donc on peut logiquement penser que si départ de Messi il y a, les prochaines recrues du Barça vont être des joueurs qui vont coûter extrêmement cher. Et ça ne sera pas toujours justifié, forcément, au regard de leur niveau. Mais on peut supposer que...
La direction va changer aussi.
Oui, voilà, c'est
ça. La direction change, mais le message que tu envoies toujours aux sociaux, c'est puisqu'on a perdu quelqu'un de très cher, on va montrer qu'on est toujours puissant et on va recruter très cher. Même si tu ne pourras jamais faire à valeur égale, ils l'ont fait pour Neymar.
Vu les échecs, là, peut-être qu'ils auront appris. En tout cas, celui qui ne sera plus du Barça l'année prochaine, c'est Rakitic. C'est officiel depuis aujourd'hui, il va au FC Séville. Pour gagner une Ligue Europa, peut-être la prochaine, hein, puisque c'est la spécialité
de ce club. Il n'y a vraiment pas de honte. Nous, on aimerait bien gagner la Ligue Europa.
En tout cas, une question. Est-on en train de voir disparaître une époque très spéciale ? Alors oui, évidemment, entre cette dualité qu'il y avait dans le même championnat et un peu à distance, qui était entre Cristiano et Messi, mais surtout, une époque où les superstars, les super individualités, on va dire des joueurs hors du commun comme ils étaient, portaient une équipe, même si, évidemment, ils n'étaient pas seuls, et vont laisser place à des collectifs plus puissants avec moins de stars qui dépassent. On peut penser au Bayern Munich, à Liverpool, voire à l'Atalanta ou à Leipzig. Arturo Vidal a parlé, il a donné une interview notamment au quotidien de Santiago de Chile, hein, La Tercera, et c'est ce qu'il a dit un peu à demi-mot en partant et en parlant de l'exemple du Barça.
Barcelone doit changer beaucoup de choses. Une équipe qui est, je pense, la meilleure du monde ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels plus des jeunes du centre de formation. Non pas parce qu'ils ne méritent pas d'être là, mais dans cette équipe, ils doivent se battre pour savoir qui est le meilleur et qui doit jouer. Toutes les équipes ont 23 joueurs pour se battre pour un poste, grandir et s'améliorer chaque jour. Mais quand ils n'avancent pas, quand vous pensez qu'avec votre ADN, vous pouvez toujours gagner, vous vous trompez. Il y a de très bons joueurs. Nous avons Messi, qui est un numéro 1 et qui est un extraterrestre. Mais il a besoin d'aide, il a besoin de joueurs qui améliorent l'équipe et donnent de meilleurs résultats.
Patrick Juillard, il dit d'ailleurs sans doute ce que pense Messi, c'est-à-dire je veux bien porter l'équipe comme il l'a fait notamment la saison dernière, mais il faut que je sois mieux entouré. Est-ce que justement maintenant, peut-être avec l'évolution du football bien sûr, du coup on a c'est moins une star qui porte une équipe mais un collectif?
Non, ça, j'y crois pas trop, parce que là, c'est raisonné sur le moment. Alors, effectivement, on assiste à un certain déclin relatif de Messi et Ronaldo, qui sont les superstars de ces dernières années. Mais les fondamentaux du football, ils sont tels que il y a aujourd'hui des superpuissances qui investissent dans le football, des sommes de plus en plus importantes. Je pense aux fonds souverains
chinois,
du Qatar,
ou
je pense à des investisseurs chinois, à l'Inter, je pense aux Émiratis. Ça n'est pas prêt de s'arrêter parce que le football rapporte aussi de plus en plus par des biais détournés, même la billetterie avec les touristes, enfin tout ça. Et d'autre part, aucune loi n'interdit à un club qui a beaucoup d'argent, qui a des moyens illimités, de recruter 40 ou 50 joueurs, et donc de faire une course aux armements. Donc, moi, dans l'idée, je suis tout à fait pour la fin des super joueurs et le retour à des collectifs type Liverpool où il n'y a pas une seule star.
La fin des super joueurs ?
La fin des super joueurs extraterrestres.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Non, mais pas qu'il n'existe plus, mais
plusieurs stars s'épanouissent ensemble sans tirer la couverture à elles toutes seules. Donc Salah, Mané, Firmino, Van Dijk et tout ça. Mais dans la réalité, vu les fondamentaux du football, qui est une économie dérégulée, qui a un peu une bulle financière et qui a besoin de produits d'appel, parce qu'il y a toute une économie qui est générée par ces joueurs-là.
De vendre des maillots ou des choses comme ça.
Je ne crois pas du tout que... Alors peut-être que les futurs joueurs dits galactiques seront moins forts que Messi et Cristiano Ronaldo, mais il y aura toujours des joueurs de ce type-là qui cristallisent l'ambition de ces clubs richissimes. Pour moi, les fondamentaux sont les mêmes.
On ne peut pas ne pas avoir de super joueurs. D'abord, ce serait quand même dramatique qu'il n'y ait plus de super joueurs dans le foot.
Je veux dire, à qui pratiquement on donne une équipe, quoi.
Je pense que c'est pas une bonne chose de ne plus avoir de joueurs qui tirent vers le haut. Parce que, par exemple, quand j'entends beaucoup dire, vous avez pris comme exemple, on peut avoir un collectif comme le Bayern Munich. Alors, effectivement, il n'y a pas d'individualité comme Messi au Barça, au Bayern. Maintenant, retirer les buts de Lewandowski, retirer les arrêts de Neuer, ils font pas la même saison. Donc, je pense que l'un a besoin de l'autre. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, une star, et on le voit avec Barcelone, avec Messi, ne peut pas toujours tout faire tout seul. Il a besoin d'avoir des joueurs, des travailleurs de l'ombre, des lieutenants, des tout ce que vous voulez. Mais je pense que, surtout dans les grosses équipes, les collectifs ont besoin d'avoir un ou deux joueurs au-dessus du lot, qui échappent un peu aux règles, qui échappent un peu au temps,
Le Barça de Guardiola.
Voilà. Et je pense que l'un nourrit l'autre et inversement. Et autant avoir un ou deux joueurs, comme parfois on peut le dire avec Mbappé, Neymar au PSG, ça cristallise tout.
Plus Di Maria.
Ça peut être négatif. Autant un collectif qui n'a une grosse équipe, un gros collectif qui n'a pas un ou deux joueurs qui tirent le truc vers le haut tout seul, moi je trouve que c'est pas une bonne chose non plus.
Philippe ?
Je pense que le vrai débat, c'est est-ce que ce sont des équipes plus collectives qui vont gagner immanquablement face aux équipes de stars ? Pour moi, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que quand on parle du Barça de Guardiola, c'était une fantastique équipe collective, dont évidemment il y avait un joueur au-dessus du lot.
À l'époque, d'ailleurs, c'était pas tant Messi. On se souvient du trio avec Iniesta et Xavi.
On se souvient de la qualité du jeu, la qualité globale du jeu, faisait qu'un Iniesta, par exemple, joueur fantastique s'il en est, mais qui dans un autre contexte n'aurait peut-être pas été si exceptionnel, a été dans un contexte collectif qui était fantastique. C'était vertigineux de qualité de football, c'était vertigineux, et il y avait le facteur X, bien sûr, parce qu'à la fin, il faut quand même marquer les buts, etc. Idem pour Ronaldo, pour moi, le Real était une super équipe, peut-être pas du niveau du Barça de Guardiola, mais une super équipe dont, effectivement, il y avait Ronaldo pour ajouter les buts. Mais Ronaldo, c'est pas Ronaldo qui a gagné toutes les Ligues des Champions. C'est pas Messi qui a gagné toutes les Coupes d'Europe du Barça.
Par exemple, Cristiano.
Pour moi, c'est toujours les collectifs qui ont gagné. Le Bayern fait partie de cette lignée. Liverpool, bien évidemment. Mais même le Real en faisait partie aussi parce qu'il y avait Modric, il y avait Kroos, il y avait tout.
Philippe, un collectif sans une ou deux individualités très fortes ne gagne rien.
Oui.
Mais bon, à Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah sont des individualités très fortes. Ils n'ont pas le statut de, disons, ce que j'appellerais galactique.
Mais alors là, peut-être plus du club.
Je pense aussi du business du club. Mmh. C'est-à-dire que Liverpool, il y a toute une image qui est plus charriée par le stade, la couleur du maillot et tout ça. Le Real, il y a vraiment besoin de la star, et le Barça, c'est devenu un peu pareil, et beaucoup des supporters du FC Barcelone auxquels j'ai parlé ces derniers jours au sujet de Messi regrettent l'époque où le club était quand même plus basé davantage sur la Masia, davantage sur une identité de jeu précise, façonnée par Cruyff puis développée par Guardiola. Aujourd'hui, ils disent maintenant notre club fait trop de business, c'est devenu comme les autres, c'est devenu un club qui fait des gros transferts au lieu d'avoir de l'imagination. Et il faudrait que le départ de Messi, s'il part, nous reconnecte avec notre passé qui n'est pas si vieux, qui date d'il y a 10-15 ans.
Eh bien, on continuera en tout cas à suivre tout ce qui se passe entre ces stars et évidemment le FC Barcelone. On a des très bons comédiens dans notre radio, n'est-ce pas ? Alors, je ne citerai pas de nom, allez, je vais les épargner, mais en tout cas, ils sont de la maison et ils chantent bien. On était habitué au feuilleton Neymar les étés, Neymar veut partir, Neymar veut rentrer du côté de Barcelone et tout. Et cette année, on a l'impression qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas.
Il n'y a pas eu d'été en même temps. On jouait au foot cet été. Oui, mais on jouait au foot cet été.
Et bien justement, Philippe, Neymar a l'air enfin heureux au Paris Saint-Germain et à Paris. Le numéro 10 du club entame apparemment, différemment, sa quatrième saison sous les couleurs parisiennes. Satisfait de rester, il le dit, notamment dans un entretien au magazine du club. Je reste cette année. Et on sait que son contrat est de 5 ans, hein, que théoriquement, il ne devait pas partir. Mais bon, en tout cas, il dit « je reste ». Et surtout, il dit, hein, il ajoute bien sûr « je veux retourner en finale ». Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est plus réaliste, Philippe?
Bon, déjà, il y a le fait d'arriver en finale, tout d'un coup, a certainement rendu la mariée plus belle et qu'il trouve que finalement, le Paris Saint-Germain, c'est pas si mal. Et puis, les conditions du marché font que je pense qu'il a pas imaginé cette année qu'il partirait de toute façon. À part cette histoire invraisemblable de Messi qui va nous tenir en haleine pendant tout
autre
ce que
feuilleton.
Ça aurait été l'été d'habitude, donc ce sera l'automne. Ouais. Ça nous tiendra en haleine jusqu'en octobre, mais en dehors de ça, il va pas y avoir de gros mouvements hein, cet été. Franchement, ça va être des trocs, des échanges. Cet automne, il va y avoir des trocs, il va y avoir des échanges, des trucs qui
oui,
est intéressant.
D'ailleurs, ça a commencé. Mais
intéressant
c'est
d'un point de vue foot, mais vous verrez pas des très gros transferts non, et autres. Je pense que le climat n'était pas du tout un grand départ pour Neymar de toute façon. Peut-être qu'il est encore une fois plutôt content de ce qu'il a fait cette année.
Il
a fait une super saison.
L'équipe. Oui, en plus.
Pas l'oublier.
C'est de l'hyper-réalisme, Patrick
Juillard. Je pense que le fait de ne pas avoir été blessé cette saison...
Il s'est dit qu'il n'y avait pas que la poisse.
...a éloigné un petit peu ce mauvais œil et cette gamberge qui commençait à s'installer dans sa tête. Je trouve aussi que sur le confinement, il a été très sérieux et très professionnel. Et quand il est revenu pour reprendre avec le PSG, il était... à son poids de forme, il était impeccable.
On croyait qu'il s'amusait sur sa plage, dans sa maison, mais il s'entraînait vraiment.
Voilà, absolument. Et que parfois, quand il y avait au retour de vacances ou de trêve, il avait pris un peu d'embonpoint, comme certains de ses coéquipiers, notamment argentins, que je ne citerai pas. Et là, au contraire, il était vraiment, il donnait le bon exemple. Et enfin, comme l'a dit Philippe, il y a une sorte de plafond de verre qui a sauté en Ligue des Champions. Le PSG n'a plus la malédiction des quarts de finale. Il a réussi à franchir un cap. Alors, c'est sur une formule particulière, mais je pense pas. Alors, la seule hypothèse qui serait délirante, mais après tout, le départ de Messi du Barça est inattendu, ce serait que le Barça, pour compenser le départ de Messi,
jette son dévolu.
Essaye de récupérer Neymar, mais enfin,
dans le
on en est loin.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, Patrick. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, même si là, il deviendrait la star du projet et tout, est-ce que tu penses que c'est intelligent d'aller à Barcelone?
Ah non, je pense que c'est pas du tout intelligent. Mais
moi, je pense que justement...
Pense qu'il est possible que le Barça ait un moment la tentation de le faire revenir.
Naïm, c'est un message pour le Barça, en fait, sa déclaration d'amour au PSG?
Oui, très certainement. Mais non, mais de toute façon, je pense qu'il est très intelligent. Il est surtout très bien entouré par des gens qui ont un certain sens des affaires. Aujourd'hui, retourner à Barcelone, c'est pas le bon moment pour Neymar.
Non.
C'est un foin pas possible. La direction, elle va s'en aller. On sait pas qui va arriver, quel va
dans
être le
projet.
Dans
un an, il y aura plus personne en commun avec aujourd'hui.
Donc, on ne sait pas ce qui va, on ne sait pas ce que le Barça va devenir. Donc, comme lui, quand il parle de ses velléités de départ, il ne parle que du Barça. L'intelligence pour lui, c'est de rester un an à Paris, qui vient de faire une finale de Ligue des Champions, qui, comme l'a dit Philippe, a fait une bonne saison, en plus lui à titre individuel, de voir ce que ça va donner en Catalogne, et peut-être, le cas échéant, à la fin de la saison prochaine, dire peut-être que j'y vais. Mais là, il n'y a aucun intérêt stratégique pour lui à quitter le PSG.
Alors, pas d'intérêt stratégique, mais par contre, Neymar, en fait, n'était pas heureux dans sa relation avec son équipementier.
Oh, le pauvre.
Hein, au bout de 15 ans, il était sous contrat avec Nike depuis le temps lointain du Santos.
Depuis ses 13 ans.
Il n'était même pas professionnel encore. Non, déjà, l'équipementier américain avait misé sur lui. Alors, il avait des contrats assez mirobolants, mais au bout donc de 15 ans, il abandonne Nike. Mmh. Alors, on ne sait pas encore trop vers qui il se tourne.
Le contrat va faire, normalement, c'est tiré jusque 2022.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et puis il arrête là en 2020.
Voilà.
A priori, Puma tient la corde.
Ouais, l'autre équipementier. Mais pourquoi quitte-t-il alors que peut-être qu'ils auraient mis l'argent sur la table, ils ont voulu rompre les négociations. Est-ce que c'est une rancœur suite aux démêlés qu'il avait eu, vous vous souvenez, les démêlés de justice avec cette jeune femme qu'il accusait de viol? Et on se souvient que Nike avait exprimé sa profonde préoccupation. Et après, ils avaient dit, la police ayant abandonné. Alors, est-ce qu'il leur en voulait depuis cette époque-là?
D'ailleurs, on n'entend plus jamais parler de cette femme. Il faudrait s'interroger, savoir ce qu'elle est devenue.
Il va y avoir des négociations financières à l'américaine.
Elle est peut-être dans un terravac quelque part au Brésil. Il faut s'interroger.
Elle fait un autre procès à quelqu'un d'autre.
Ouais, voilà. Bon,
elle est sur une autre affaire.
Est-ce que c'est cette histoire de fille? Je ne sais pas.
Je retire.
Les médias spécialisés qui ont sorti, en tout cas, qui ont l'air les mieux informés, les plus documentés sur le disent qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente sur la somme du nouveau contrat. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant du nouveau contrat, parce que ça s'est tiré jusque 2022 pour un peu plus sur plus de 100 millions d'euros répartis sur 11 ans, ce qu'il avait signé le dernier en 2019, donc c'était de 2011 à 2022. Donc a priori, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la somme. Il y en a aussi qui disent qu'il n'aurait pas aimé le fait que sur le dernier spot publicitaire, Mbappé notamment, soit plus mis en avant que lui. Est-ce qu'il y a une histoire d'ego dedans? Je ne sais pas, mais... Enfin là, on parle quand même de gros sous, de très gros sous, de contrats mirobolants, c'est un zéro en plus, une virgule à droite ou à gauche.
Philippe, en général, quand on change d'équipementier, c'est pas parce qu'on est mal chaussé ou qu'on est mal habillé.
Non, 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 ça c'est pas un problème. Sinon, on maquille les chaussures. Et...
Ouais. Voilà. Il y en a qui faisaient ça, hein, d'orage.
Bien sûr, il y en a encore, il y en a encore qui le font, qui maquillent leurs chaussures pour être
pour ne, que la marque n'apparaisse pas, pour faire du chantage. Bah,
pour qu'apparaisse la marque avec laquelle ils sont en contrat, alors qu'en fait c'est une chaussure différente avec laquelle ils jouent depuis toujours, etc. Donc ça c'est arrivé à de nombreux joueurs. Non, c'est une affaire de gros sous d'abord, je pense. Enfin, le plus vraisemblable dans ce genre d'affaires, c'est comme ça, parce que, en l'occurrence, c'est quand même la marque du Paris Saint-Germain. Donc, ça aurait eu une certaine cohérence qu'il y reste, mais bon, et du Brésil en plus. Mm-hmm. Bon, mais s'il a tout d'un coup une opportunité réelle de devenir la star, parce que c'est une autre manière de devenir une star. Mm. Neymar est une grande star, sauf que, ça conclut peut-être le débat qu'on avait avant. C'est qu'on a connu un monde absolument incroyable avec deux overstars, quoi. Enfin, des trucs incroyables qui s'appellent Messi et Ronaldo, qui tous les ans sont des stars performantes. Ce qu'on n'a pas jamais connu avant. Avant, on avait une star, mais qui faisait une éclipse, un peu une saison, qui changeait de club, ou qui ceci, qui cela. Là, on a eu deux stars tellement énormes qu'elles ont même phagocyté, qui durent avec une régularité
et l'image qui dure,
une longévité et une régularité telle que même un Neymar qui est un joueur incroyable, qui est une méga star, il n'a jamais eu une saison où il a pu passer le nez en disant cette année au moins c'est moi. Mais non, il n'a jamais pu avoir cette saison-là. Et donc peut-être que c'est aussi ça. Ce marché Puma, c'est peut-être, tiens, le signal que, bon, maintenant c'est moi, c'est mon heure. Maintenant ils sont vieux les autres, maintenant c'est mon heure, c'est moi qui vais passer sur le devant. Déjà, on va commencer sur le plan commercial et tout le reste viendra avec.
Il est en tout cas la 7e personnalité la mieux rémunérée pour ce qui est d'un classement établi par la revue Forbes qui s'intéresse aux très riches. Restons justement sur le Paris Saint-Germain et malheureusement la pandémie qui entoure et qui nous entoure tous et qui menace actuellement les êtres humains sur la planète.
Ibiza, mon pote, tu vas t'éclater.
Ibiza, t'as choisi Ibiza.
Ibiza, île paradisiaque, Ibiza, hein, comme on dit là-bas, île paradisiaque des Baléares en Espagne, où les joueurs du PSG ont défilé en nombre durant leurs vacances suite à la Ligue des Champions, vous vous en souvenez. Hein. Mais même à Ibiza, donc, le coronavirus s'est invité. Deux joueurs encore en vacances ont été déclarés positifs, ils sont rentrés. Donc, deux internationaux argentins, hein, selon nos confrères de l'équipe et du Parisien, il s'agit de Paredes et Di Maria. Alors, au-delà de la polémique liée au report du match à Lens, apparemment, ils pourraient au moins eux deux être absents pour non seulement ce match reporté au 10 septembre, mais aussi la réception de Marseille au Parc des Princes. Et là, en pensant à Tuchel, mais aussi à tous les entraîneurs, Patrick Juillard, tous ces entraîneurs, non seulement de la Ligue 1, mais de tous les championnats, est-ce que là, ils sont devant une année... Alors, on est tous devant une année spéciale et dans des temps particuliers, mais ils vont devoir réinventer à tout instant leur équipe.
Absolument, absolument. On peut se poser d'ailleurs des questions sur le caractère un peu trop strict peut-être du protocole de la Ligue 1 qui dit qu'à partir de 4 joueurs, le match est reporté, alors que les effectifs normalement permettent de surmonter les absences de plus de 4 joueurs. Je parle pas de 10 ou 12, mais s'il y en a 5 ou 6, on peut quand même jouer, je pense. Bon, ça c'est un aparté. Oui, bien sûr. Ça met en lumière un petit peu la difficulté des clubs à surveiller, entre guillemets, les joueurs. On se moquait de Giroud quand il racontait que il allait dans les discothèques de la région d'Auxerre pour voir quels joueurs sortaient le soir et se conformer à ce qu'il disait quand il disait qu'il était sage.
En boîte.
Là, ce qui est terrible, c'est qu'à Ibiza, en ce moment, les discothèques qui font la réputation de Lille sont fermées. Ça veut dire que ces joueurs, ils ont Ils se sont dit, bon, Ibiza, on peut louer des villas et faire des fêtes privatives dans des villas, mais on ne sera pas au contact du grand public. Ils sont allés dans des restaurants, bon, comme ils l'auraient fait avec une distanciation sociale. Le masque, le port du masque est obligatoire là-bas, mais malgré ça, comme ils sont restés entre eux beaucoup, il a suffi que l'un d'entre eux, sans doute, attrape le virus pour qu'il se transmette à d'autres ou que l'un de leur entourage.
Oui, c'est ça. C'est...
Et
non,
ça montre qu'en fait, il va falloir que les clubs recommandent aux joueurs de rester le plus isolés possible les uns des autres et de tous les gens avec lesquels ils peuvent être en contact. Ça veut dire que, concrètement, un joueur, il fait son entraînement 3-4 heures par jour, il rentre chez lui, il va pas faire ses courses, il envoie quelqu'un, et ainsi de suite, et il sort le moins possible. Il n'y a pas d'autre solution.
Philippe, ça veut dire que pratiquement, c'est comme s'ils étaient au vert tout le temps. C'est-à-dire au vert, c'est-à-dire toujours enfermés avec leur club ou l'entraîneur.
C'est même une hypothèse. Hein. Il n'est pas complètement exclu que d'ici quelques temps. Alors en France, je sais pas, parce qu'on est un peu particulier, nous sommes un peu spéciaux, nous sommes différents. Mais en Angleterre, en Allemagne ou dans des pays un peu rigoureux ou autres, où ils ont pleinement conscience de l'importance que la compétition ait lieu malgré tout ce qui peut arriver par ailleurs, il n'est pas exclu qu'à un moment il y ait une ligue en Europe qui dise
qui
décide, ce mois-ci il y a gros problème, hôtel. Toutes les équipes sont à l'hôtel, tout le monde est rassemblé, personne ne sort, terminé, et c'est tellement important. D'ailleurs, si vous voulez toucher vos salaires, si tout le monde veut continuer ce gros business qui est devenu le foot, faites les sacrifices qu'il faut, parce que Ibiza et tout ça, c'est gentil, mais non.
Ouais. Vous croyez pas si bien dire, Philippe, parce que au Maroc, beaucoup de cas sont apparus dans les différentes équipes de Botola, et la fédération a décidé que les équipes devraient se mettre à l'isolement dans des hôtels financés d'ailleurs par la fédération. Donc les équipes maintenant sont cantonnées dans des hôtels loin de leur famille.
Alors c'est pour finir le championnat, pour pouvoir finir dans les temps, mais là effectivement
la situation au Maroc était plus grave qu'en France, puisque dans certaines équipes il y avait 12 ou 13 cas. Bon, là on peut pas jouer. En France, on n'en est pas là.
Naïm Ognol,
ça me paraît pas possible de pouvoir isoler toute une équipe et un staff tout le temps sur plusieurs mois, voire toute une saison, sans
qu'il y ait un peu plus de rigueur.
Oui, un peu plus de rigueur, mais à la rigueur, c'est une rigueur que tout le monde doit avoir. C'est qu'à un moment donné, si on empêche les gens de sortir sans masque, d'aller dans les magasins sans masque, dans les machins, à ce moment-là, on arrête de jouer.
Non, un joueur, il a les moyens de pas aller autant dans les magasins. Il peut.
Oui, mais le joueur, il est entouré, le joueur
à son service.
Souvent, le joueur, il a une femme, il a des enfants, il a des proches, il a des agents, il a des avocats qui eux sont en contact avec des gens, Je ne vois pas comment on peut préserver.
Ces entourages-là doivent être un peu
plus je ne vois pas comment on peut préserver sur toute une saison tout un groupe plus un staff sans qu'il y ait de soucis. Regardez les cas qu'il y a dans les équipes.
L'important à un moment, ce sera de préserver les emplois. Parce que si les clubs se cassent la gueule, si on arrête le foot, et que Nice d'ailleurs est champion, bravo Patrick Julliard, Nice est potentiellement champion.
Si on arrête
parce que
demain,
si le championnat s'arrête,
absolument.
Ils sont champions de France, donc il faut le dire.
J'aimerais
pour
mieux
la première
ne
fois
pas
depuis 50 ans ou 70 ans. Enfin,
parce
je
que
ne
Nice
sais plus.
A déjà gagné, les gens l'oublient.
Oui, hein. Mais absolument, années 50. Et donc Nice potentiellement champion. Non, mais je veux dire, là on est dans une industrie, c'est un business. Donc il y a un moment, il va falloir que les gens prennent en considération que les lances PSG, il faut arrêter de leur porter sous des prétextes futiles, parce qu'on ne sait pas si on va finir le championnat. La réalité.
Et je crois qu'on vit tous dans des conditions spéciales actuellement, parce qu'on sait bien le port du masque obligatoire, même au bureau désormais, et tout
bien
ça. Pas encore en studio, pour l'instant. On est encore assez éloigné.
Parce qu'on est loin.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui, et on vous dit à demain.